Me voici tout confus. Par ton amour, pardonné, je pardonne en retour. C'est ce que nous avons chanté aussi tout à l'heure, et ce sont des paroles profondes qu'il nous faut essayer d'expérimenter, de vivre. Pardonné, je pardonne en retour. En temps de famine, quand un pays, quand un peuple souffre de la malnutrition, de la faim, les pauvres malheureux peuvent manger n'importe quoi. Pendant la guerre franco-prussienne, en 1870, il y a eu une famine qui s'est abattue sur la ville de Paris, une famine sans précédent. Et les gens ont mangé du chat, du chien, et même des rats d'égout de la ville, pour survivre. La population s'est même attaquée aux eaux de Paris et ont mangé du loup, de l'ours ou de l'éléphant. Vous imaginez qu'on est en train de faire une agape, qu'on soit en train de faire une agape ici, et qu'on tourne à la broche de l'ours ou bien du loup aux érelles. Terrible. Autre fait beaucoup plus terrible, lui aussi, et contemporain, l'année dernière, dans le village de Madaya en Syrie, un village assiégé, les pauvres enfants squelettiques, pour survivre, ont dû manger des feuilles d'arbres, de l'herbe et aussi des chats. Les denrées qui restaient, l'alimentation qui restait, était devenue tellement rare que les prix avaient explosé. Et le riz se vendait au gramme. Plus horrible encore, durant les sièges de Perpignan entre 1472 et 1475 et en 1640, les habitants de Perpignan ont mangé des cadavres, aussi bien ceux des assaillants que ceux des défenseurs. Après avoir épuisé les crottins de chevaux, l'herbe des remparts et même le cuir bouilli, ils faisaient cuire du cuir, si je peux m'exprimer ainsi, pour le manger, tellement ils avaient faim. Et enfin, un triste dernier exemple, en 1816, la frégate qu'on appelait la Méduse a fait naufrage et 150 marins se sont entassés sur un radeau pendant 13 jours. Et ils ont pratiqué l'anthropophagie. Ils se sont mangés. Et au décompte final, il n'y avait que 15 survivants. Pour survivre, les gens sont prêts à manger n'importe quoi. En temps de famine, les gens mangent n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que le deuxième livre des rois, nous parle aussi de la population de la ville de Samarie qui a connu aussi un moment de famine. Et nous allons lire un texte, un chapitre, mais j'aimerais bien que quelqu'un le dise. C'est possible ça? À l'improviste comme ça. J'ai demandé à quelqu'un, mais il est occupé. Est-ce que c'est possible que quelqu'un fasse la lecture d'un chapitre? C'est le chapitre 7. Du deuxième livre des rois, j'ai envie de demander à Patrick. Non, 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 pas toi. Tu pourrais lire, Patrick? Oui. Viens. Viens me rejoindre alors. Viens, Patrick, excuse-moi. Viens ici derrière le micro parce que sinon ça n'enregistrera pas. Allez, viens. On n'entendra pas sérieusement. Voilà. Il fait un bel effort. Merci, Patrick. Mets-toi là.
Élisée dit : Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondait à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous jeter dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs rames, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente, et en emportant des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, je suis perdu un petit peu dans mon truc.
C'est pas grave.
Verset 9. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes, comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à sa serviteur, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. » Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent auprès d'eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans la précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit, « Alors, ô roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un sicle. Demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut.
Merci beaucoup, Patrick, pour la longue lecture. Le roi de Syrie, donc, est déterminé plus que jamais à envahir la terre d'Israël, à prendre possession de la capitale Samarie. Il faut savoir, évidemment, qu'après le schisme, ce n'est plus Jérusalem qui est la capitale de l'entièreté de la terre d'Israël. Jérusalem reste capitale du royaume de Juda. Quant au royaume du Nord, la capitale devient Samarie. Et donc, Ben-Hadad, le roi de Syrie, est déterminé à prendre possession, à envahir la capitale Samarie. Et pour ce faire, il organise un siège autour de la ville de Samarie. Alors, comme nous le savons, un siège, eh bien, c'est une stratégie militaire qui consiste, comme je viens de le dire, à entourer la ville lorsque l'assaillant ne peut pas prendre directement d'assaut cette ville, un lieu, parce qu'il y a des remparts, parce qu'il y a une muraille, parce qu'il y a une forteresse autour de l'endroit en question. Alors, l'objectif du siège, c'est d'empêcher le ravitaillement de ceux qui sont derrière la muraille en eau, en alimentation, en nourriture, afin de les affaiblir, afin de susciter, de provoquer un manque d'hygiène. Les gens commencent à mourir de faim, et le but ultime de ce siège, du siège en question, c'est de provoquer la reddition de la partie qui se trouve derrière les remparts, de l'armée qui se trouve derrière les remparts. Et c'est ce qui se passe en Israël. Ben-Hadad se trouve autour de l'armée d'Israël, retranché derrière les murailles de Samarie. Le siège permet aussi, comme stratégie militaire, eh bien, à l'envahisseur de s'emparer d'un lieu, d'un endroit, par le temps plutôt que par la force. L'armée syrienne donc s'installe autour de la ville de Samarie et la famine commence. Elle commence à se faire ressentir. Les gens commencent à mourir de faim. Et quand on meurt de faim, comme nous l'avons vu en introduction, on mange n'importe quoi. À un point tel que ce qui reste comme nourriture se vend à un prix exorbitant. Ainsi, par exemple, on vend des têtes d'âne, on ne l'a pas lu, c'est juste au chapitre qui précède, une tête d'âne se vend pour ceux qui peuvent se le payer à prix d'or, pourtant c'est un animal impur, ils n'ont pas le choix, et ils vont même jusqu'à manger des fientes de pigeons, des crottes de pigeons. C'est quelque chose de répugnant. Les malheureux sont obligés de se rabattre sur des choses abominables pour sauver leur vie. Il y a même un cas d'anthropophagie. Lorsqu'une femme vient trouver le roi Joram, le roi d'Israël, et elle vient lui expliquer son cas. Nous étions mis d'accord, ma voisine et moi, pour manger mon fils un tel jour, mon enfant un tel jour. Et puis, le lendemain, on devait manger son enfant. On a mangé mon enfant, comme convenu, mais le jour où on devait manger le sien, elle l'avait caché. Le texte ne dit pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a voulu épargner la vie de son fils, ou peut-être parce qu'elle a voulu le manger pour elle toute seule, on n'en sait rien. Quelque chose d'abominable, de désastreux. Une situation de famine qui conduit à l'inimaginable. Notons que le prophète Moïse avait déjà annoncé, prédit ce genre de situation en Deutéronome chapitre 28, verset 53, où il est écrit « Si vous obéissez à l'Éternel, je vous bénirai. Si vous cherchez ma face, je multiplierai mes bénédictions. Si vous vous détournez de moi, je me détournerai de vous et je vous livrerai entre les mains de vos ennemis. Au milieu du désarroi et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. » Tableau cauchemardesque, si je peux dire, de la situation dans laquelle se trouvent les personnes qui renoncent volontairement à l'Éternel, abandonnent délibérément l'Éternel Dieu. Et quand le roi apprend cela, il déchire ses vêtements. Si Dieu n'a rien pu faire pour toi, comment veux-tu que moi je fasse quelque chose pour toi ? Répond-il à cette femme. Et alors il rend pour responsable de cette famine le prophète Élie. Et il dit tout haut, il fait le serment, il va aller trouver Élie pour lui retrancher la tête. Pour le décapiter, pour lui couper la tête. Alors il s'en va dans la localité où se trouve le prophète Élie. Et là, Élie, averti par une révélation divine, barricade dans un premier temps la porte de son habitation, de sa maison. Et puis, le roi qui est là, avec son officier de confiance, se plaint, gémit, adresse ses complaintes. Et Élisée entend cela. Et il va prendre pitié de la situation dramatique dans laquelle se trouve le peuple de Samarie, le roi et l'officier qui l'accompagne, et il va lancer, si je puis dire, un éclair dans la grisaille en annonçant une bonne nouvelle. Le roi est là, on ne sait pas si la porte est ouverte ou si elle est restée fermée, accompagné de l'officier. Demain, à pareille heure, vous pourrez manger à votre faim. Vous pourrez manger en abondance. Il y aura de la nourriture pour tout le monde. Mais voilà, l'officier du roi qui l'accompagne, l'homme de confiance qui est à côté du roi, se moque de la promesse du prophète Élisée. Comme si Dieu allait faire des fenêtres dans le ciel pour faire tomber de la nourriture. C'est en quelque sorte ce qu'il dit. La sanction est imminente, et le prophète Élisée de lui dire, tu verras la promesse s'accomplir, mais tu ne mangeras pas. Et Dieu va ensuite utiliser ces quatre lépreux, dont Patrick a fait la lecture tout à l'heure dans le texte, dans le chapitre 7, pour s'acquitter, pour réaliser sa promesse. Dieu va utiliser quatre pauvres lépreux. Dieu, tout au long de sa parole, ça se vérifie, aime, choisit les choses faibles, les choses viles de ce monde pour accomplir son plan, pour confondre les fortes. Dieu va donc choisir quatre lépreux qui sont là, et il faut rappeler que le statut des lépreux, c'était un statut pénible, ô combien pénible. Ils étaient rejetés, ils vivaient en marge de la société, victimes d'ostracisme parce que on avait peur d'être contaminés par leur maladie. Et en plus de leur souffrance, parfois on mettait des clochettes autour de leur cou, comme ça permettait à ceux qui étaient sains, qui n'avaient pas contracté de lèpre, de savoir qu'il y avait un groupe de lépreux qui approchait. Ou quand ils n'avaient pas de clochette, ils étaient parfois tenus de crier « impur, impur » pour signaler leur présence. Mais à côté de cette souffrance physique, de la douleur liée à la lèpre, il y avait aussi cette souffrance morale et cette souffrance affective. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient séparés de leur famille, ils étaient séparés de leurs amis, ils étaient séparés de leurs parents, de leurs enfants ou de leurs conjoints. Ils vivaient en vase clos, au pied de la muraille, en dehors de la ville. Et ces lépreux se décident à un certain moment de quitter l'endroit où il se trouve, au pied de la muraille. Le pied de la muraille. Et ils veulent aller. dans le camp syrien. Ils veulent passer à l'ennemi en espérant que l'ennemi ait compassion d'eux en leur donnant peut-être un simple morceau de pain. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Alors, ils avancent. Un certain, craintif, tremblant, et arrivé au camp des Syriens, à leur grande surprise, il n'y a plus personne. Le camp a été déserté par l'armée des Syriens, de Syrie. Comment est-ce que cela a-t-il été possible? Et le texte le dit. L'Éternel a fait entendre dans le camp syrien un bruit de chars et le bruit d'une grande armée. Aussi, le roi Ben-Hadad a cru que le roi d'Israël, Joram, s'était allié avec l'armée égyptienne et l'armée des Hittites pour combattre en coalition contre lui. Alors il a pris la fuite et il a abandonné tout. Il a laissé son campement tel quel, les tentes telles quelles, il a laissé les ânes, il a laissé les chevaux, il a laissé la nourriture, il a laissé les vêtements. Et quand les lépreux arrivent là et qu'ils voient le camp déserté, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils vont dans une première tente et ils trouvent de la nourriture, ils mangent, ils boivent. Et puis ils ramassent toutes sortes de vêtements, de l'or, de l'argent, et ils vont cacher tout. Puis ils reviennent, et ils explorent d'autres tentes, et ils vont encore cacher tout. Et tout cela pendant une bonne partie de la nuit. Et puis il y en a un quand même qui rentre en lui-même, et qui entend raison. Il se dit, mais c'est pas bien ce qu'on fait là. On est en train de nous gaver. Et pendant ce temps-là, nos concitoyens meurent de faim derrière les murailles de Samarie. Nos amis, nos sœurs, nos frères, nos parents, nos concitoyens, le peuple est affamé et est en train de mourir de faim. Et l'un d'eux de dire, aujourd'hui, cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et si on garde le silence d'ici la lueur du jour, d'ici l'aurore, le châtiment va nous atteindre. Alors ils réalisent. Alors que vont-ils faire? Ils vont rebrousser chemin, ils vont retourner vers les murailles, vers la ville de Samarie, ils vont prévenir les gardes de la porte de la muraille, qui vont eux-mêmes prévenir le roi, la maison du roi. Alors le roi ne reste pas indifférent, puisqu'il se réveille la nuit. Il ne rejette pas systématiquement la bonne nouvelle en s'en moquant, comme l'a fait son officier. Mais il doute, il raisonne. Verset 2, « Oui, mais c'est peut-être un piège que nous tendent les Syriens, peut-être qu'ils sont allés se cacher dans les campagnes et quand ils vont nous voir sortir, ils vont nous encercler au milieu de leur camp, de leur tente. C'est peut-être un piège. » Alors non seulement il doute, non seulement il raisonne, mais il veut des preuves. Verset 14, on voit qu'il va envoyer deux messagers, deux éclaireurs pour aller vérifier dans le camp des Syriens si ce que les lépreux ont dit est exact. Alors, les lépreux s'en vont. Et il leur dit, allez et voyez, allez voir. Les éclaireurs s'en vont, ils vont vérifier, ils arrivent dans le camp, ils reviennent. Ils font rapport au roi, c'est bien comme les lépreux l'ont annoncé. Les Syriens ne sont plus là. Il y a des richesses, il y a de la nourriture, tout le peuple va pouvoir se rassasier. Alors dès que le peuple apprend cette bonne nouvelle, il se rue en passant par la porte de la muraille de la ville de Samarie, et au passage, il piétine l'officier, incrédule et moqueur, confirmant ainsi la sanction décernée par le prophète Élisée. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Tu verras l'accomplissement, mais tu n'en profiteras pas. Tu n'en bénéficieras pas. Une bonne nouvelle, il sauve tout le peuple de la mort, de la famine. Alors devant cette bonne nouvelle qui nous est présentée dans ce chapitre 7 du deuxième livre des Rois, le texte nous présente aussi trois états d'esprit différents, trois catégories d'attitudes que les personnes présentent face à cette bonne nouvelle. Trois réactions différentes. La première réaction, la première attitude, eh bien, c'est celle des moqueurs, qui est personnifiée ici dans le texte par l'officier du roi. Les moqueurs. Ceux qui tournent en dérision la parole de Dieu. Ceux qui traitent le message de Dieu avec sarcasme. Comme si Dieu allait ouvrir des fenêtres dans le ciel pour faire pleuvoir de la nourriture. Allons donc. La moquerie. Les moqueurs. Comme à l'époque de Noé, finalement, où ses contemporains se moquaient de lui parce qu'il construisait un bateau, une arche, dans un lieu aride, sec. Tu construis ça là, mais il ne pleut jamais ici. Vieux fou. Ils se sont moqués du prédicateur de la justice, comme nous dit la parole de Dieu. Alors des moqueurs, il y en a toujours eu. Mais il y en a aujourd'hui plus que jamais. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre écrit dans une de ses épîtres. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de sa venue ?» La moquerie, les moqueurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça se vérifie. Il suffit d'écouter les médias. Après le journal parlé du matin à la radio à 8h, on entend souvent ces petits sauts qui désacralisent le christianisme. Qui parodie les récits bibliques, les textes bibliques comme la création ou bien la nativité. Et ils font recette avec ça, parce que les gens aiment ce genre de moquerie. Pour ces gens, comme pour l'officier du roi, la parole de Dieu est nulle et non avenue. Elle ne sert à rien, ne veut rien dire. Et malheureusement, leur jugement est à la porte. Ils ne peuvent pas croire ou ils ne veulent pas croire. Ils ne peuvent pas comprendre ou ils ne veulent pas comprendre. Et puis comme second profil, comme seconde catégorie de personnes réagissant face à cette bonne nouvelle, eh bien nous avons, après les moqueurs, nous avons ceux qui hésitent, ceux qui raisonnent, ceux qui doutent, comme le roi Joram. Pourquoi ? Parce que les réalités spirituelles, le surnaturel, ça les dépasse. Alors ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de vérifier. Ils ont un esprit rationnel, alors ils ont besoin de vérifier tout ce qu'on leur dit. C'est trop merveilleux, c'est trop incroyable, c'est trop idyllique. Comme le comportement affiché par le roi Joram qui envoie des éclaireurs dans le camp des Syriens en disant « Allez et voyez, la vue précède la foi. Allez et voyez, la vue précède la foi. » C'est aussi un petit peu l'attitude, je pensais à lui, de Thomas dans les évangiles, ce disciple de Jésus qui veut vérifier en touchant les stigmates de Jésus ben, que c'est bien un corps physique, que c'est bien le Christ ressuscité qui est devant lui. Il veut vérifier, il veut voir, et de Jésus de lui dire en Jean chapitre 20, verset 28, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et Jésus de dire encore en Luc chapitre 24, verset 25, « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. » Première catégorie, les moqueurs. Deuxième catégorie, ceux qui mettent en doute, qui hésitent, qui raisonnent, qui ont difficile d'accepter les réalités spirituelles, le surnaturel. Troisième catégorie de personnes qui est présentée dans ce texte que Patrick nous a lu. Eh bien, ce sont les lépreux, les quatre lépreux. Ils réalisent que leur mort est certaine, qu'ils sont condamnés, qu'ils sont dans une situation désespérée, à moins que la grâce de Dieu se manifeste. Si nous disons « entrons dans la ville », la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons assis ici, nous mourrons aussi. Et maintenant, venez et passons dans le camp des Syriens. S'ils nous font vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ben, c'est une lapalissade. C'est une réalité. Autrement dit, attendons-nous à la grâce de Dieu. Et c'est cette démarche de foi qui leur sera salutaire. C'est cette confiance affichée par ces quatre lépreux qui va leur permettre de bénéficier du salut et d'en faire bénéficier aussi le peuple de Samarie. Et puis il y a, n'est-ce pas, ce passage, ce qu'il y a de plus beau dans ce récit, c'est la compassion des lépreux. La compassion des lépreux pour le peuple affamé. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et on garderait le silence. Ils veulent aussi faire profiter tous les habitants de Samarie de cette bonne nouvelle, de leur découverte. Découverte qui va permettre à tout le peuple d'avoir effectivement la vie sauve. Et nous allons conclure. Aujourd'hui, il y a encore une bonne nouvelle qui est annoncée. Ce n'est bien évidemment pas la bonne nouvelle matérielle que les quatre lépreux ont faite et dont ils ont fait bénéficier tout le peuple de Samarie. Mais il y a cette bonne nouvelle merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ. Son pardon, sa grâce, la vie qu'il nous offre, qu'il nous donne gratuitement. Et si cette bonne nouvelle est encore d'actualité aujourd'hui, les trois états d'esprit que nous avons passés en revue il y a un instant sont eux aussi d'actualité. Alors comment est-ce que nous allons réagir devant cette bonne nouvelle? Est-ce que nous allons réagir comme l'officier moqueur et incrédule? Est-ce que nous allons réagir comme le roi Joram, sceptique, celui qui doute, celui qui raisonne, celui qui veut des preuves, qui ne se contente pas de la foi? Ou bien est-ce que nous allons réagir avec ce même état d'esprit qui animait ces quatre lépreux, qui ont foncé avec l'espérance de la foi, de cette foi qui sauve? Quel état d'esprit allons-nous afficher devant le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ? Et puis, si nous avons déjà expérimenté cette bonne nouvelle, saisi cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus qui sauve, qui donne la vie, est-ce que nous gardons égoïstement toutes les richesses spirituelles dont Dieu veut nous faire bénéficier en Christ, son pardon, sa communion, sa paix, sa vie? Ou bien offrons-nous à tous nos concitoyens qui sont affamés, qui meurent de faim, Jésus, le pain de vie qui seul peut rassasier leur âme? Alors oui, nous voulons affirmer avec les quatre lépreux, aujourd'hui, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et nous ne pouvons pas garder le silence. Nous ne pouvons pas garder le silence. Nous avons reçu, nous avons été enrichis de par celui qui pour nous s'est fait pauvre et qui nous demande, et il nous demande aussi d'enrichir, de mettre au bénéfice de notre espérance, de cette espérance qui nous anime, ceux qui nous entourent parmi nos concitoyens. Que Dieu nous aide à réaliser son plan et que nous puissions remplir finalement notre rôle, ce rôle de témoin qu'il attend de chacun d'entre nous.